OK. Luc, on parle souvent de désobéissance civile là, depuis quelque temps au Québec. Et il y a des gens qui disent qu'il faut respecter la loi. En Catalogne, en Espagne, la loi est, disons, un peu biaisée contre les mouvements sécessionnistes, autonomistes, qui sont, en bien des points, semblables à ceux qu'on connaît au Québec.
Totalement. Imagine-toi, Patrick, là, René Lévesque, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Lise Payette, mettons Pauline Marois, en prison. En prison pour avoir tenté d'engager le pays sur une forme d'indépendance. Là, ils avaient organisé un référendum alors que c'est interdit, l'Espagne étant une et indivisible selon la Constitution. Et donc, ces personnes-là, il y en a deux de ces personnes-là qui se sont fait mettre immédiatement en prison. Le leader du mouvement, Puigdemont, s'est sauvé en Allemagne puis en Belgique. Les deux qui ont été emprisonnés l'ont été contre les avis de l'ONU. Donc, ils ont été emprisonnés dès le départ, il y a 2 ans, et ont été maintenus en prison. Là, pas « je te laisse sortir en attendant que... Et l'ONU a fait une mission au mois de mai, a dénoncé la situation et l'Espagne s'en est foutue parce que habituée à ce comportement.
Pourquoi l'Espagne a cette réaction-là alors qu'en Écosse, par exemple, oui, il y a eu un référendum qui a été organisé sur la souveraineté. Les leaders écossais n'ont pas été emprisonnés. Au Canada, il y a eu 2 épisodes où les leaders politiques au Québec ont flirté avec l'indépendance par des référendums légitimes. Il n'y a personne qui a été envoyé en prison. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau?
C'est quoi qu'ils boivent?
Qu'est-ce qu'il y a dans le cava?
Puis aussi qu'on peut leur dire aussi, on va rajouter un élément pour savoir, avant de répondre à qu'est-ce qu'ils boivent, là. Oui. La police, le comportement de la police le jour du référendum, on se rappelle le festival de la matraque et le rapport qui est sorti sur la police, elle-même a sorti un rapport sur les événements. Là, on se rappelle des images, les visages ensanglantés, la police qui frappait, la police nationale qui frappait à grands coups sur tout le monde. Le rapport est sorti en disant qu'ils avaient été cruellement attaqués par les gens qui tentaient d'aller voter et qui s'étaient précipités sur les matraques, à coups de mâchoire sur les matraques de la police. Essayaient de...
Violemment frapper de la matraque avec sa mâchoire.
C'est ça. Écoute, ils ont eu peur. La police a eu peur, les gens qui se précipitaient. Ouais. Là. Mais donc, tout ça, tu te dis, ouais, c'est ça, effectivement, qu'est-ce qu'ils boivent? Moi, je ne l'ai pas la réponse. Je ne l'ai pas parce que...
Mais c'est un pays que tu connais un peu.
Oui,
là.
C'est ça. Donc, il a fallu que j'appelle des Espagnols, il a fallu que j'appelle des Catalans qui en savent beaucoup plus que moi. Et puis, il y a plusieurs possibilités. La première chose, c'est que la Constitution est claire. La Constitution qui a été adoptée en 1975, tout de suite après la mort du général Franco, par les franquistes qui étaient encore au pouvoir à tous les postes de hauts fonctionnaires.
Donc, Luc, il faut le préciser, Constitution adoptée sous une dictature.
Oui. Tout juste après, mais enfin, on peut dire sous une dictature, elle est extrêmement claire. La moitié de la Constitution traite du séparatisme parce que tout le nord du pays a voulu, une fois ou une autre, a voulu se séparer. Alors, la Catalogne, le Pays basque, on se rappelle de l'État, fort mouvement révolutionnaire puis terroriste, et la Galice. Donc, les règles sont écrites clairement sur le fait que tu n'as pas le droit de te séparer. Par contre, ça dit nulle part dans les règles que... Les procureurs ont demandé 25 ans d'emprisonnement. La Cour suprême ne l'a pas donné, mais les procureurs espagnols demandaient 25 ans. Et ça, c'est pas écrit nulle part dans la Constitution. Ça, là, c'est un cas de rage. C'est une envie.
Mais c'est pas de la justice, Luc, c'est de la vengeance.
C'est de la vengeance. C'est ça le slogan de plusieurs des manifestants aujourd'hui. Alors, pourquoi cette rage? Bon, premièrement, l'Espagne, c'est un pays qui est le cancre économique de l'Europe tout de suite après la Grèce. 14 % de taux de chômage aujourd'hui après 10 ans de croissance de l'Europe. Et pendant ces 10 années-là, il y a eu des taux de chômage qui ont atteint 20 % 26 %. Donc, un pays qui n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Là, on risque de rentrer en récession. S'il rentre en récession avec 14 % de chômage, on peut se demander avec combien ils vont ressortir. Et donc, c'est toute une jeunesse qui est gaspillée. Et peut-être qu'il monte une frustration parce que là, tu sais qu'il y a eu toutes sortes de tractations pour essayer de réduire le déficit qui était jugé en dehors des normes. Donc ça veut dire beaucoup de coupures. Ça veut dire que les gens sont épuisés et qu'ils cherchent un coupable. Et peut-être que ce coupable-là, c'est les maudits séparatistes catalans qui ont, entre le mois d'avril et aujourd'hui, refusé d'adopter le budget. Il y a 17 séparatistes qui sont au pouvoir avec le gouvernement fédéral. Ils ont bloqué les ententes du gouvernement Sanchez qui essayait de s'unir avec eux pour passer le budget. Ils ont bloqué. Ils ont été très durs dans leurs revendications et leurs demandes. Mais de l'autre bord, c'est pas mieux. Sanchez, à un moment donné, pour essayer d'avoir l'appui des séparatistes, dit « Bon, ben, on va nommer un conciliateur international. » Il a juste dit ça, là. Puis il n'a pas dit qu'il allait avoir une séparation. Il dit « On va nommer un conciliateur qui vient analyser la situation, nous aider à trouver des solutions. » Il y avait des dizaines de milliers de personnes dans la rue à Madrid pour empêcher ça. Ils veulent rien savoir.
À Madrid, donc, dans la partie, disons, on va appeler ça le reste du Canada, là.
C'est ça.
C'est-à-dire dans la partie oui. qui n'est pas sécessionniste.
C'est ça.
Mais là, c'est une culture politique, puis c'est même une culture sociale brutale. Et c'est là que tu vois, moi je suis toujours fasciné par le fait qu'au Québec, on a eu deux référendums, 80-95. Écoute, il y a à peine eu des vitrines brisées. Mais... même s'il y a eu beaucoup d'animosité, il y a des failles qui se sont tracées dans des familles, reste qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de répression judiciaire.
C'est extraordinaire. T'as raison. Et te rappelles-tu le soir du référendum, il y avait des hélicoptères qui avaient été licenciés par des médias, dont CBC, qui s'attendaient à voir la rue se révolter, là, puis qui se promenaient en haut de la ville, puis il n'y avait rien. Puis à un moment donné, il y a eu justement quelques bris de vitrine, puis là, tous les projecteurs étaient là-dessus. Il ne s'est rien passé. Le lendemain non plus, il ne s'est rien passé. Les gens se sont levés avec une gueule de bois, mais il ne s'est rien passé.
Puis Luc, écoute, tu connais mieux la politique que moi, là, mais regarde, tu emprisonnes des leaders souverainistes, OK? Puis tu peux ne pas aimer leurs idées, là. Parfait. Mais t'emprisonnes des leaders souverainistes, il me semble que tu vas créer de la radicalisation chez les militants souverainistes.
Grande tradition espagnole. Grande tradition espagnole de s'en foutre carrément puis de dire on va faire face à la situation. Après Franco, bon, Franco, premièrement, la guerre civile espagnole,
ouais.
80 000 morts, puis après ça, 200 000 morts en prison ou dans les camps franquistes. Donc, la pire guerre civile européenne de l'histoire.
De l'époque,
Et puis, les gens, tu sais, 600 à 800 charniers là, partout, là, des morts partout là, dans les campagnes. Ils rentraient dans les villes, même les villes qui n'avaient pas résisté, ils se mettaient à frapper dans le tas et à tuer. Et donc, il n'y a jamais eu, pendant toutes ces années par la suite, 40 ans de pouvoir, il n'y a jamais eu d'excuses. Quand il n'y a jamais eu de pardon, il n'y a jamais eu d'inventaire des personnes. T'sais, imagine-toi
ici. Il n'y a pas eu l'équivalent d'une commission où on dit, OK, qui a fait quoi, là, puis on va essayer de se réconcilier, là, après la guerre civile.
Ici, tu sais, on l'a eu, par exemple, pour les orphelins du Plessis. Tu as vu le mouvement que ça a créé.
Ben, on l'a eu face aux Autochtones aussi.
Ben oui. Là-bas, des centaines de milliers de morts, lorsque le juge Gradzone a essayé en 2008 de dire, ben, il faudrait qu'on regarde ça, il a été conspué par les élites espagnoles. Il s'est reçu des chars de tomates pourries. Ils ont dit, on touche pas à ça. Ça, c'est les vieilles élites espagnoles catholiques, hyper, hyper, hyper conservatrices, assis sur leur nom, assis sur leur richesse, qui veulent rien savoir.
François Legault a critiqué, là, ce qui se passe en Espagne. Ça te dit quoi que Justin Trudeau lui dise, ah, ce sont des affaires internes de l'Espagne, je veux pas parler de ça?
Ah, Justin Trudeau fait la même chose que les autres pays qui ont des cas de sécession sur les bras, donc l'Angleterre avec l'Écosse, même une partie de l'Allemagne qui a aussi eu une résurgence de mouvements nationalistes. Personne veut ouvrir une porte qui, après ça, pourrait y revenir d'en face en disant « Ah oui, mais mêlez-vous donc de vos affaires, parce que quand ça va être le tour du Québec, nous aussi, on va y aller. » Mais là, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas se mêler de nos affaires. Ce qu'il faut faire, c'est montrer à l'Espagne ce que le reste du monde fait dans pareilles circonstances. Tu donnais tantôt l'exemple du Québec, on a donné l'exemple de l'Écosse. Il y a une façon de traiter ces choses-là de façon humaine, ouverte, et il est temps que l'Espagne arrive à l'heure de l'Europe.
Très bien dit. Parfait. Merci, Luc Ferrandez. 17h20, on te retrouve demain. Après la pause, Pierre-Yves McSween va venir nous parler d'une autre façon d'exploiter les pauvres et la pauvreté par les prêts avec des intérêts épouvantables.